La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Et au menu de notre club cet après-midi, les 20 ans du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, une enquête sur la vidéosurveillance et puis une collection de livres sur les génies des mathématiques. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la Une de la Science, aujourd'hui la nouvelle édition du SIDAction.
Et oui, la collecte annuelle de SIDAction qui commence aujourd'hui et qui dure jusqu'à dimanche. Pour parler plus particulièrement de la jeunesse face au SIDA, nous recevons la directrice générale de l'association.
Et Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Anna Massardier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard. Sur France Inter.
Voilà et bienvenue à nos invités du club avec mon studio Alexandra Palt, le professeur Ether Zahr, le mathématicien Étienne Gis. Bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour.
Et puis en duplex des studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence, le sociologue Laurent Mukili. Bonjour à vous.
Bonjour, merci.
Alexandra Palt, vous êtes la directrice générale de la Fondation L'Oréal. Le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science a donc fêté ses 20 ans. C'était hier soir à l'UNESCO. Oui. Est-ce que depuis que le prix existe maintenant, les choses bougent dans le bon sens pour l'accès des femmes aux sciences ?
Il y a certaines choses qui ont bougé. Il y a plus de femmes chercheurs que jamais. On est passé de 26% à 30%. Mm-hmm. Il y a une autre réalité qui n'a malheureusement pas changé, qui est celle du plafond de verre qui persiste. On n'a que 11% de femmes à des postes de responsabilité dans les métiers scientifiques et on n'a que 3% de prix Nobel scientifiques depuis l'origine des prix Nobel. Et aucun prix Nobel en 2016 et aucun en 2017. Et donc cette réalité-là, malheureusement, elle persiste.
On fera le point évidemment avec vous dans quelques instants, avec également le professeur Ether Zahr, lauréate du prix L'Oréal, donc UNESCO, cette année, et qui dirige une unité médicale à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Elle va nous parler de ses recherches dans un instant. Étienne Gis, vous êtes le parrain, on peut dire les choses comme ça, d'une collection de livres publiés par le journal Le Monde et l'Obs sur les génies des maths. Premier numéro donc qui vient de sortir, consacré à l'allemand Gauss, qui a vécu au 18e. Pourquoi est-ce qu'il est surnommé le prince des mathématiques, alors ce monsieur Gauss?
Gauss, c'est la perfection, c'est la concision, c'est un homme qui a finalement publié assez peu dans sa vie, mais ce qu'il publiait était parfait.
Bon.
Et ça n'est qu'après sa mort qu'on a découvert qu'il y avait une profusion de choses qui étaient restées cachées.
Donc c'est le premier personnage, en tout cas, pour ouvrir cette collection.
C'est le premier volume de cette collection.
On fera connaissance donc avec Gauss, mais avec d'autres également, et puis David Larousserie nous présentera cette collection. Laurent Mukili, vous êtes donc en duplex avec nous, vous publiez de votre côté, vous êtes filmé, une enquête sur la vidéosurveillance chez Armand Collin. Est-ce que les caméras dans les villes, ça sert vraiment à quelque chose pour lutter contre la délinquance et le terrorisme ?
Alors pour lutter contre la délinquance et le terrorisme, en fait, pas grand chose. Mais du coup, comme il faut bien néanmoins justifier tout ça, ça conduit à certains détournements et ça peut servir aussi à d'autres choses, mais qui sont pas forcément celles qui sont annoncées officiellement.
Eh bien, on va en discuter avec vous dans quelques minutes et puis avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et à la Une de la Science aujourd'hui, la grande collecte de l'association SIDAction qui commence donc aujourd'hui en partenariat avec Radio France. Et nous allons voir que du côté des jeunes en France, Axel, les 15-25 ans, eh bien, ce sont les moins informés sur la maladie, et en tout cas de moins en moins.
Oui, nous sommes avec la directrice générale de l'association et on peut donner quelques chiffres. 21% des 15-25 ans qui pensent que le sida peut se transmettre par un baiser, 19% en s'asseyant sur les sièges des toilettes et 18% par la transpiration. C'est des chiffres qui reflètent une mésinformation inquiétante de la jeunesse. Comment vous les expliquez, vous qui êtes directrice de cette association, directrice générale de l'association, Florence Thun?
Oui, bonjour. Effectivement, ce sont des chiffres inquiétants et qui par ailleurs se dégradent année après année. Des chiffres qui sont dus à la mauvaise information des adolescents au collège et au lycée. Non seulement sur les questions du VIH, mais globalement sur les questions de l'éducation à la sexualité. Donc un manque d'information en milieu scolaire, mais aussi dans l'espace de grand public.
Et c'est des sondages que vous réalisez chaque année depuis 2009, et chaque année, c'est des conclusions qui se dégradent. Ça aussi, c'est inquiétant.
Oui, tout à fait. Oui, on aimerait bien ne plus avoir finalement à faire ce sondage. On a constaté, et c'était frappant cette année, qu'un certain nombre d'idées fausses étaient encore plus fortement ancrées. Sur certains aspects, on a gagné 8 à 9 points dans le sondage, sur effectivement des jeunes qui pensent que en embrassant une personne séropositive, en étant en contact avec la transpiration d'une personne séropositive, on peut être contaminé par le VIH.
Alors, incroyable quand même, non, aujourd'hui, de pouvoir encore le penser.
Oui, tout à fait. On a relu plusieurs fois nos sondages année après année pour être sûr qu'on ne se trompait pas. Enfin,
peut-être que quelques rappels s'imposent. Est-ce que vous pouvez nous redonner précisément les modes de transmission du virus du sida?
Alors, pour rappel, et basé sur la science, puisqu'on en parle, c'est effectivement le sang, les sécrétions vaginales, le sperme et le lait maternel, point barre.
Donc, la peau est une barrière.
La peau est une barrière, ça ne se transmet pas non plus par les moustiques. Enfin, voilà, c'est important de rappeler ce que sont les fondamentaux.
Il y a quelque chose d'autre qui est paradoxal, c'est que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre de mieux en mieux, et pourtant, de plus en plus de fantasmes autour.
Oui, tout à fait, parce que même si la science a progressé, parfois la société ne progresse pas aussi vite. Et de moins en moins de personnes vivant avec le VIH témoignent aujourd'hui dans la sphère publique ou de manière générale. Ce qui fait que dans l'imaginaire collectif, on reste effectivement avec des images qui datent des années 80-90, où le sida faisait peur et effectivement les gens mouraient. Et aujourd'hui, on voit moins ces personnes qui travaillent, ont une vie amoureuse et qui peuvent aussi donner une image positive, sans faire de mauvais jeu de mots, sur ce que peut être aussi la vie avec le VIH, malgré les traitements, malgré la vie au long cours avec les traitements.
Est-ce que ce manque d'information se traduit par une hausse des contaminations chez les jeunes ces dernières années?
Alors, effectivement, depuis 2007, et notamment de 2007 à 2013, on a eu une forte augmentation de 24% et même de 150% chez les jeunes gays. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui est extrêmement important et pour lesquels on a vraiment une attention particulière en termes de prévention.
Alors justement, professeur Isardar, vous qui êtes professeur de pédiatrie en Afrique du Sud, est-ce que la situation des enfants africains a évolué beaucoup ces dernières années sur le front du sida ?
Plus de 90% des enfants qui ont le sida vivent en Afrique subsaharienne. Mais la situation a beaucoup changé ces dernières années. Dans les années 90, nos hôpitaux étaient remplis d'enfants qui mouraient du sida. Aujourd'hui, avec la prévention et le traitement, il y a peu de transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Et le sida n'est donc plus une maladie fatale chez les enfants, mais une maladie chronique. Mais parallèlement à ce qui vient d'être dit, il y a une augmentation du VIH chez les jeunes adolescents, surtout les jeunes femmes, les jeunes adolescentes.
Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre un jeune qui contracte le sida à 20 ans en termes d'espérance de vie et le reste de la population? Est-ce qu'en France, cette différence persiste?
Florence Thune.
Oui, aujourd'hui, heureusement, grâce au progrès des traitements, on peut constater qu'une personne, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui a été contaminée très récemment, a quasiment la même espérance de vie qu'une personne séronégative. C'est effectivement pas le cas de personnes qui ont été contaminées de manière plus ancienne, à la fois à cause des effets des traitements sur le long terme et du développement de maladies cardiovasculaires et du vieillissement accéléré parfois des personnes.
Alors, pour pallier à ce problème de l'information des jeunes, SIDAction, l'association, quelles sont les solutions que vous avez décidé d'apporter dans les prochaines années?
Alors, nous, plus particulièrement, on développe des projets qui permettent de faire de la sensibilisation auprès notamment des jeunes gays qui sont particulièrement touchés, et notamment en travaillant par Internet, parce que les jeunes ont Internet au bout des doigts tout le temps, et c'est important d'avoir des informations précises. On fait référence notamment au site onsexprime.fr qui est extrêmement bien fait en termes d'information. Et puis, on développe de l'information notamment sur les sites de rencontres qui sont beaucoup fréquentés par des jeunes gays et qui permettent d'avoir une information fiable.
Les voilà. Applications aussi sur téléphone?
Tout à fait, des applications. Les sites de rencontre. Oui.
Donc la collecte, hein, c'est aujourd'hui.
Oui, tout
appel
à fait.
Au don, évidemment.
Sur 3 jours, appel au don, au 110 pour faire une promesse de don ou sur le site de sidaction.org pour faire un don directement.
Voilà, le 110, sidaction.org et Radio France en partenariat, bien sûr, pour vous soutenir jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup, Florence Thune, d'être passée aujourd'hui à la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 10 000 décès par an liés au mauvais usage des médicaments, c'est trois fois plus que le nombre de morts sur les routes, les mauvais dosages, le non-respect du traitement prescrit, l'interaction entre plusieurs médicaments serait la cause de ces nombreux morts. Le collectif Bon Usage du Médicament, qui publie ces chiffres, dénombre aussi chaque année plus de 130 000 hospitalisations à la suite de ces erreurs. À noter que les personnes à risque sont aussi celles qui surconsomment des médicaments, et en Europe, les Français sont des champions. Mangez peu et vous vivrez plus longtemps. Depuis déjà 10 ans, des études tendent à montrer qu'une restriction calorique permettrait de ralentir le vieillissement du métabolisme. Les souris, soumises à des régimes restrictifs, pourraient vivre jusqu'à 65% plus longtemps que les souris au régime alimentaire classique. L'Institut National de Santé des États-Unis a réalisé des tests pendant 2 ans sur des personnes âgées entre 21 et 50 ans. Et les résultats indiquent une diminution des dommages dus au vieillissement chez les personnes au régime les moins caloriques. Une restriction des besoins en énergie par intermittence pourrait ainsi s'avérer efficace pour lutter contre les maladies neurodégénératives et le diabète. Et puis pour finir, des images rares, celle du Colophirne Jordani ou la Baudroie des Abysses, qui a été filmée pour la première fois en plein ébat dans les profondeurs des Açores. Le tout petit mâle accroché fermement à la grosse femelle profite de ses nutriments et lui transmet sa semence. Ces poissons, vivant à 800 mètres de profondeur, ont peu d'énergie à perdre et se laissent dériver, accrochés l'un à l'autre. Des images qui ont émerveillé les biologistes des profondeurs qui n'ont jamais rien vu de tel. Et pour voir justement ce balai bioluminescent et émouvant, vous avez rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Allez, c'est le club dans un instant. Sylvia Saez, et c'était le nouveau Charlotte Gainsbourg.
La tête au carré, le club.
La NASA, j'étais loin de me douter qu'on a engagé des...
Il y a beaucoup de femmes
qui travaille au programme spatial.
Vous trois, vous faites ça?
Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Voilà, puisque dans le club cet après-midi, on va parler des 20 ans du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, mais également d'une enquête sur la vidéosurveillance et puis une collection de livres sur les génies des mathématiques qui sort avec Le Monde et l'Obs. Et bien sûr, vous nous rejoignez en direct, vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alexandra Palt, vous êtes donc la directrice générale de la Fondation L'Oréal, et puis donc ces prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science qui ont fêté, hein, c'est leurs 20 ans, donc c'était hier soir à l'UNESCO à Paris. Vous êtes accompagnée de Isser Zahr, qui est l'une des lauréates pour l'Afrique et les États arabes. Isser Zahr, vous êtes professeur et chef d'un service de pédiatrie et de santé infantile et directrice donc de l'unité Medical Research Council. C'est à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Alors justement, Alexandra Palt, en 98, lorsque la Fondation L'Oréal met en place ces prix pour les femmes et la science, quelle était l'idée de départ? Quelle était la vocation et le fil directeur?
L'idée de départ, c'est que de démontrer que la science, l'excellence scientifique, se décline aussi en féminin. Parce qu'un grand problème est le manque de visibilité pour les femmes. L'oubli, chacun entre nous, quand on pense scientifique, un grand scientifique, on va penser à un homme. Et nous, on voulait introduire des femmes pour que le science au féminin devienne une normalité et donc soit aussi reconnue que leurs collègues masculins.
Oui.
Et qu'on crée des rôles modèles, des modèles qui servent à d'autres femmes à envisager des carrières scientifiques et donc à s'engager dans ces parcours.
Avec donc des prix qui sont décernés sur tous les continents, hein. C'est ça aussi l'objet
du prix L'Oréal. Oui, il y a tous les ans 5 lauréates, une lauréate de chaque continent, région, on veut ainsi permettre à toutes les femmes partout dans le monde d'avoir cette visibilité-là. C'est vrai que nous avons hier eu une lauréate de l'Afrique du Sud de 2009, et elle a dit pour elle, le prix, c'était vraiment un changement dans sa vie, parce que ça a mis pas seulement en valeur une femme scientifique, mais une femme scientifique africaine, qui a donc montré qu'en Afrique, il y avait autre chose que maladie, pauvreté, mais aussi des femmes scientifiques d'exception. Et donc, on a sur chaque région, et en plus de ces 5 lauréates, donc à très haut niveau, on a également chaque année des boursières dans 53 pays, des boursières donc qui sont au niveau de doctorante ou post-doctorante. En total, ça fait donc depuis 20 ans, plus de 3000 femmes qui ont été soutenues, promues, accompagnées et mises en lumière.
Dont une doctorante d'Étienne Gis.
Oui, l'année dernière.
C'est ce que vous m'appreniez en antenne.
C'est ça, oui. Ouais.
Sur quel thème de recherche, Étienne Gis?
Les miens, c'est-à-dire les systèmes dynamiques.
Voilà. Donc vous récompensez toutes les disciplines scientifiques, a priori?
Absolument. Donc mathématiques, biologie, etc. Pas sciences sociales. Parce qu'en séance sociale, on a plutôt beaucoup de femmes. Et donc, on va dans des séances où il y a un manque de femmes à déplorer.
Ouais.
C'est vrai, en mathématiques, c'est tout particulièrement criant. Et comme dans le domaine de nouvelles technologies, on a vraiment besoin de plus de femmes pour créer ce monde de demain.
Où sont d'ailleurs les femmes, David Larousserie, dans cette collection du monde sur les génies des maths? Parce qu'évidemment...
Vous êtes difficile, vous êtes dur. Il y en a pas, et il n'y a pas non plus de vivants dans
la collection.
Il y a deux femmes.
Sur combien?
Sur une cinquantaine.
Sur une cinquantaine, oui. Il y en a que deux. Il y en a deux, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et ça traduit vraiment aussi le problème dans ces disciplines-là, Étienne Gis.
Oui, à ceci près qu'il s'agit de...
Ça, c'est l'histoire.
Il s'agit d'histoire, de livres d'histoire.
Ça,
donc on est en train
c'était
de juger du passé.
C'était encore
parlons
pire.
Parlons plutôt du futur, ça sera plutôt plus intéressant.
Si je peux me permettre, mais n'oublions pas aussi que dans l'histoire, il y a des femmes exceptionnelles
bien
qui
sûr.
N'ont jamais reçu les honneurs
tout
qu'ils auraient dû recevoir.
Hein,
quand on pense à Mileva Einstein, Nettie Stevens, Rosalind Franklin et d'autres.
Évidemment.
Et Ada Lovelace, plus proche de
bien
vous.
Bien sûr.
Isser Zahr, justement, la question des femmes en sciences, est-ce qu'elle est saillante aussi en Afrique du Sud?
Effectivement, oui. Ces derniers temps, il y a eu d'excellentes avancées et plus de femmes dans les sciences. Mais il y a 10 ans, la visibilité était vraiment moindre. Le ministère des Sciences fait la promotion active des femmes par le biais d'un programme spécial. Et cela permet donc de donner plus de visibilité au profil des femmes. Et puis, il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'université, qui ont des doctorats. Donc, je crois vraiment qu'il y a de l'espoir.
Il y avait une publication dans dans Science la semaine semaine qui montrait que les enfants américains dessinaient de plus en plus de femmes scientifiques. Donc ça, c'est intéressant. 38% aujourd'hui sont des femmes dans les dessins.
Et il y a 20 ans, c'était 2 ou 3%.
Exactement. Donc bon, il y a des progrès, c'est pas inintéressant.
Il y a des progrès. Ouais. N'oublions pas qu'il faut aussi qu'on retrouve ces femmes-là au plus haut niveau.
Absolument. Avec le fameux plafond de verre, qui est toujours une réalité dans ce domaine de la science.
Et qui est souvent très multifactoriel. Donc c'est pas un seul facteur, c'est pas une discrimination consciente qu'on dit on veut pas avoir de femmes. Oui. Mais c'est une culture organisationnelle, ce sont des freins, un système qui est reproduit, donc un peu un club de garçons.
Alexandra Palt, vous avez publié mardi dans Le Monde justement une tribune pour dire que les préjugés sur les femmes dans le domaine scientifique influence les résultats de la recherche. De quelle manière, alors, exactement?
Oui, je pense que ça, c'est vraiment important de dire, parce que il faut se rendre compte que c'est un enjeu pour nous tous. Il s'agit vraiment pas seulement d'une question d'égalité entre les femmes et les hommes, il s'agit d'une question de société, parce que on a vu, par exemple, dans les recherches sur certaines maladies, qu'on n'a pas suffisamment pris en compte une perspective de genre. Donc, on avait des traitements inadaptés, surtout pour les maladies cardiovasculaires. Et maintenant, plus qu'on regarde l'avenir, on voit très bien que l'intelligence artificielle porte en elle des risques, parce qu'il y a des études qui ont démontré que l'intelligence artificielle peut reproduire des stéréotypes sexistes ou racistes avec l'association d'images, etc. Et donc là, je trouve que nous courons vraiment des risques évidents, que si ce monde de demain soit dessiné que et inventé que par des hommes, qu'on ne crée pas de société inclusive et Donc durable pour tout le monde.
Avec des répercussions sur la santé, très directement, des femmes en particulier.
Absolument, il peut y avoir des répercussions sur la santé, mais il peut aussi, par exemple, il y avait un test en Angleterre, dans un programme de recrutement, où on a utilisé donc un programme d'intelligence artificielle pour trier des CV, qui a reproduit des biais de discrimination raciste et sexiste. Et donc ça, c'est quand même très très inquiétant pour notre avenir à tous.
Alors vous engagez un mouvement, les hommes s'engagent pour les femmes en science. Alors, c'est eux qui sont venus vous voir ou c'est vous qui leur avez suggéré de se manifester?
C'est nous qui sommes allés le voir parce que à la Fondation et avec l'UNESCO, nous pensons que il est très très important de dénoncer les discriminations et de tous les mouvements des derniers mois, mais pour construire la société de demain, pour faire société, il nous faut les femmes et les hommes. Et donc, on a rencontré un grand succès auprès de ces 25 scientifiques qu'on a sollicités qui s'engagent donc à proactivement soutenir, accompagner ce mouvement en faisant attention dans le recrutement, la promotion, dans l'accès au financement, la publication. Si un grand scientifique refuse de parler à un colloque, il n'y a que des hommes invités, il dit non, il faut aussi qu'il y ait une femme qui intervient. Ça change, bien sûr, c'est un changement culturel qui va prendre du temps, mais pour ce changement culturel, nous sommes convaincus que nous avons besoin des femmes et des hommes.
Et dans ce grand mouvement de libération de la parole des femmes dans le monde, là, depuis cette année, la science est encore à la traîne.
Un peu.
On a peu entendu les voix scientifiques.
Je pense que les femmes scientifiques souvent disent elles-mêmes qu'elles ne sont pas victimes de discrimination parce que j'ai découvert que les femmes scientifiques sont tellement passionnées par leur recherche et ont tellement envie de croire encore que c'est neutre, que la découverte, l'excellence scientifique, le travail, le talent va suffire, que il y a un peu encore trop de silence.
Professeur Ether Dhar, parce que je rappelle quand même que vous êtes l'une des lauréates de ces prix lauréats UNESCO 2018. Et vos travaux récompensés et qui mettent en avant donc votre carrière au service des enfants africains. Dans quel domaine de la santé exactement vous menez vos travaux de recherche, qu'on comprenne bien?
Really pediatric lung diseases.
Je travaille sur les maladies pulmonaires pédiatriques.
Those are the diseases that are the major killers of children
worldwide. Ce sont les maladies qui tuent les enfants dans le monde. La pneumonie tue 1 million d'enfants par an. La tuberculose également, c'est un problème majeur.
Il y a
près d'un million de nouvelles infections par an chez les enfants. Et puis l'asthme, bien sûr. L'asthme qui est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants.
And of course, in the context of HIV,
dans le contexte du VIH, la pneumonie et la tuberculose sont des problèmes très importants.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis au point, vous, concrètement, pour essayer de lutter, de faire avancer, en tout cas, la recherche sur ces maladies?
So broadly, we focused on developing
en gros,
better
nous sommes concentrés sur l'élaboration de meilleurs diagnostics, plus rapides pour ces maladies.
Effective quick treatment,
afin de mettre en place des traitements effectifs, efficaces, plus rapidement. Et nous sommes concentrés sur des stratégies de prévention.
And in asthma, we focused
pour
on
l'asthme,
bringing state-of-the-art
nous avons voulu travailler sur des traitements d'inhalation qui soient très pointus, donc développer des techniques bon marché pour que les enfants puissent utiliser des inhalateurs.
Donc concrètement, pour les tests diagnostiques, ce sont des tests très simples, c'est ça, qui sont réalisés à partir de salive ou de sécrétion nasale, hein?
Exactly. So for TB,
tout à fait, oui. Donc pour la tuberculose, généralement, on pensait qu'on ne pouvait pas obtenir le germe de la tuberculose chez les enfants. Lorsqu'on s'adresse à des adultes, pour le diagnostic, on leur demande de tousser et ensuite on analyse le mucus. Mais les gens pensaient que ce n'était pas possible de faire cela avec des enfants. Donc nous avons élaboré de nouvelles méthodes pour recueillir cette salive, ces expectorations. Nous avons des méthodes pour prélever donc le mucus nasal, buccal, également de l'urine. Et maintenant, nous avons des méthodes très rapides pour détecter les germes en 2 heures. Donc, en 2 heures, vous avez la réponse si l'enfant a la tuberculose ou pas. Et également, pour savoir s'ils ont une forme résistante de tuberculose ou pas. Donc, ça a vraiment changé la façon dont on diagnostique les enfants. Et maintenant, l'OMS a recommandé ce test pour les enfants partout dans le monde.
Mais est-ce que ça peut permettre de faire baisser la mortalité concrètement de ces enfants?
Absolument, oui, je crois que ça va avoir un impact. Seulement 2 des enfants tuberculeux sur 5 sont diagnostiqués à l'heure actuelle. Et si vous avez une infection résistante qui n'est pas bien traitée, alors dans ce cas-là, évidemment, le risque de mortalité est plus élevé. On ne parle pas uniquement de la mort, d'ailleurs. On sait que ce sont des enfants qui développent des maladies chroniques, donc lorsqu'ils ont une pneumonie ou une tuberculose précoce. Donc, le diagnostic, le traitement, bien sûr, mais il s'agit également de prévenir les maladies chroniques.
Et puis, vous travaillez aussi beaucoup sur les inégalités sociales en Afrique, et ça, c'est absolument essentiel aussi pour avancer sur le front des différentes maladies.
Absolutely. I mean, Africa.
Tout à fait. L'Afrique représente une zone à forte incidence. Il faut savoir que 50% des morts infantiles surviennent en Afrique. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent très jeunes en Afrique. C'est une statistique absolument terrible et c'est quelque chose auquel on peut remédier. Aujourd'hui, nous avons les outils pour réduire cela.
Eh bien, félicitations à vous, puisque vous représentez donc l'Afrique cette année, lauréate du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Mais où sont les francophones cette année, Alexandra Palt? Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben, il y a une sélection très objective par un jury présidé.
Eh oui, il n'y a pas de francophones.
Par un jury donc qui était présidé par Elizabeth Blackburn, qui est prix Nobel elle-même, donc sur 50 dossiers. Et donc, cette année,
bon, ce sera pour l'année prochaine, alors, voilà. Bon anniversaire, en tout cas, à ce
Merci
prix
beaucoup.
Qui fait beaucoup pour les femmes en sciences. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler vidéosurveillance. Ce sera le prochain sujet de notre club.
Tu es un leurre, une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bats les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose. Tu vas te casser quelque chose sur moi. Sur le tard et sur le tas, à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur pur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille. Et en chaussons. change d'avis. Faut voir. À midi, reviens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir.
À midi, on m'a dit, c'était la voix d'Albin de la Simone.
Le club sur France Inter.
Voilà, votre invité du club cet après-midi, Laurent Mucchielli, en duplex de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Et vous publiez justement ce livre. Vous êtes filmé, enquête sur la vidéosurveillance aux éditions Armand Collin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire méditerranéen de sociologie. Et vous enseignez la sociologie de la délinquance à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Mucchielli, justement, en démarrant cette enquête, finalement, à quelles questions vous souhaitiez répondre au départ?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'était que c'est assez rare, en fait, pour un chercheur, d'avoir quelque chose de vraiment nouveau qui tout d'un coup, en sciences humaines et sociales en tout cas, hein, d'avoir quelque chose de vraiment nouveau qui tout d'un coup débarque dans l'objet sur lequel il est spécialisé. Donc là, la vidéosurveillance telle que tout d'un coup en 2007, elle devient une grande politique nationale. Oui. C'est quelque chose qui vraiment, voilà, était nouveau. En plus, qui arrive en prétendant avoir un impact qui va révolutionner en partie les choses. Voilà, c'est vraiment un bel objet. Après ça, la deuxième chose, je suis pas parti un beau matin en me disant bon, je vais écrire un livre là-dessus. C'est parce que j'ai profité d'opportunités. C'est ce qui fait d'ailleurs je crois l'originalité de mon livre. C'est-à-dire j'ai eu accès à des choses qui d'ordinaire ne sont pas du tout rendues publiques. Mmh. Et j'ai pu du coup faire des opérations de recherche, observer des choses, faire de l'ethnographie, faire des calculs statistiques que personne n'avait fait, quoi.
Et en particulier, vous avez travaillé sur trois villes françaises emblématiques, sauf que vous ne citez pas leur nom réel. Et pourquoi alors?
Ah ben ça, c'est un principe général dans la recherche en sciences sociales. On ne cite aucun nom de personne ou de lieu. Mmh. Ça, c'est tout à fait clair.
Oui, mais vous parlez de Nice, par exemple. Donc là, il y a des choses quand même qui sont claires aussi sur place.
Ah ben quand j'utilise par ailleurs, j'ai fait toute une revue de presse nationale en fait. Mmh. Hein, très concrètement, je m'étais créé des alertes internet, vous savez, des alertes Google, puis tous les matins depuis des années, j'ai eu mes petites alertes. Ce qui balaye essentiellement la presse quotidienne et régionale, ce qui fait que j'ai eu accès à tout un tas d'informations dont j'avais besoin pour me transporter par le biais d'internet, avoir quelques informations sur les quatre coins de France au fond. Hein. Donc entre autres choses, on rencontre ça. La ville de Nice, on la rencontre forcément puisque tout le monde en parle, y compris les rapports de la Cour des comptes, etc., puisque c'est l'endroit où a été poussé au plus loin, au fond, la logique de municipalisation de la sécurité.
Bon, et mais Megacity, ça, alors, par exemple, Megacity, quelle est cette ville? Ville portuaire aux très fortes inégalités. Vous avez étudié donc la question de la vidéosurveillance, vous qui êtes, je le rappelle, quand même, enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Donc ça devrait quand même nous donner un indice, non?
Oui, mais là, je ne peux pas le cacher pour une raison encore autre et qui est toute simple, c'est que dès qu'on donne la population, dès que je dis j'ai travaillé sur une ville de 870 000 habitants, il n'y en a qu'une, c'est Marseille. Donc celle-là, je ne peux pas la cacher. Mais les autres, je répète, c'est volontaire et c'est un principe déontologique de la recherche.
Ouais. Alors, la vidéosurveillance aujourd'hui, c'est une réalité de quelle manière dans les villes de France? Parce que vous dites bien que ça ne concerne pas que les villes d'ailleurs, mais même les petits villages des campagnes profondes, on trouve des caméras.
Oui, écoutez, pour la faire courte, il y a eu en fait trois épisodes dans cette histoire de la vidéosurveillance. L'épisode numéro 1 de la série, ça commence au tout début des années 90 avec des initiatives locales. Mmh. Certains maires qui décident de politiser la question de la sécurité au niveau local, ce qui est nouveau. La sécurité, c'est un débat national depuis longtemps, mais ils décident de le politiser au niveau local. Le maire le plus emblématique, le plus connu qui a fait ça, c'est Monsieur Balkany à Levallois-Perret, par exemple. Bon. Donc on a dans les années 90 et début 2000, comme ça, des initiatives locales, qu'une première loi d'ailleurs en 95 encadre juridiquement. L'épisode numéro 2 de l'histoire, il commence en 2007 lorsque Nicolas Sarkozy et François Fillon en font une politique nationale. Ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, donc l'objet arrive vraiment dans mon champ
donc
à ce moment-là.
Sur le thème de la sécurité. Hein.
Voilà, et sur le thème, ça va vraiment améliorer complètement la sécurité. Sur le thème aussi, à l'époque, faut se souvenir du lancement à l'époque de la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques. Et donc aussi sur le thème, on va vous enlever quelques policiers et gendarmes, mais en échange, on va vous donner des caméras. Ce qui est évidemment une fausse promesse, mais on pourrait y revenir peut-être. Et puis il y a un épisode numéro 3, qui est celui dans lequel nous sommes plongés. Ouais. Le numéro 2, au fond, a très bien marché avec les grandes et les moyennes villes. Et l'épisode numéro 3, il a commencé en fait après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Et on voit bien actuellement que dans les demandes qui sont adressées à l'État d'aide au financement, eh bien c'est surtout dans les petites villes, voire les villages, qu'on a la progression la plus importante.
Oui, avec évidemment l'actualité d'aujourd'hui à Trèbes qui fait écho aussi d'une façon tout à fait particulière hein, à ces questions, puisque évidemment les villes et la population est très demandeur de ces vidéos et de ces caméras dans leurs rues.
La population, non. Certains groupes de population, oui. Mmh. Ce qui est tout à fait différent. En réalité, la plus grande partie de la population est largement indifférente. Bon. Alors évidemment, si on fait un sondage du genre, est-ce que vous êtes pour ou contre, oui ou non? Ce qui est évidemment le degré zéro de toute discussion intellectuelle. Oui. Comme depuis 20 ans, on leur dit c'est bien, c'est pour votre sécurité, quasiment personne ne répond non. C'est tout à fait fatal. Bon, voilà. Mais les gens n'ont aucune information en réalité. Donc il y a des petits groupes, par contre, oui, de gens, soit parce qu'ils sont très politisés, soit parce que ils se sentent beaucoup en insécurité, qui, ayant pris cette habitude, qu'on leur dise c'est bien, c'est pour votre sécurité, du coup, sont effectivement demandeurs jusqu'à dire, mais telle rue en a, moi j'en ai pas, j'en veux une dans ma rue. Vous voyez, ouais. Voilà.
C'est Brice Hortefeux hein, qui avait décidé de changer de nom, enfin d'appellation, pour parler de vidéoprotection plutôt que de vidéosurveillance. Et évidemment, le glissement sémantique est d'importance. Hein.
Ah ben oui, bien sûr, ça fait partie de la politique. C'est pas pour vous surveiller, c'est pour vous protéger. Voilà, c'est un jeu de mots juste pour faire mieux passer la chose.
Ouais. Alors vous parlez de ce mythe hein, aussi qui veut faire croire finalement que la délinquance et le terrorisme seront résolus avec la vidéosurveillance. C'est un mythe qui a toujours la peau dure. Enfin, ça résiste bien quand même, non?
Ah, complètement. En gros, il y a deux mythes. Tout chercheur en sciences sociales commence toujours sur un sujet par essayer d'identifier justement les mythes, les imaginaires, les préjugés, pour essayer de les mettre à distance et ensuite ouvrir les yeux et faire l'enquête pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc d'un côté, je dirais, il y a des opposants par principe de la vidéo, pour qui la moindre caméra, c'est forcément l'arrivée de Big Brother. Et puis de l'autre, il y a les partisans par principe de la vidéo pour qui c'est forcément le moyen de faire ce que j'appelle du vidéo flag.
Oui.
Bon. Et en nous ayant vendu en particulier deux promesses de sécurité, effectivement, le fait que ça nous protégerait du terrorisme d'une part et de la délinquance ordinaire de voie publique d'autre part. Alors sur le terrorisme, il faut être extrêmement clair et peut-être malheureusement qu'aujourd'hui on en aura encore une confirmation. Qu'est-ce qui se passe en fait à chaque fois? Je dis bien à chaque fois, il n'y a aucun contre-exemple connu. Hein. À chaque fois, nous retrouvons des images, des terroristes en train de faire de repérage ou en train d'arriver sur les lieux du crime, mais on retrouve ces images après coup, quand tout le monde est mort. C'est donc un mensonge, je dirais même une escroquerie intellectuelle que de prétendre que cela nous protège en quoi que ce soit du terrorisme.
Donc ça ne sert absolument pas à prévenir les attaques.
Ah mais en aucun cas, en aucun cas, je dis bien, ça relève de l'escroquerie intellectuelle, il faut être très clair là-dessus. C'est aussi un des enjeux de mon livre, de montrer que malheureusement, un certain nombre d'élus se permettent véritablement de dire tout et n'importe quoi, et que c'est quand même, je dirais que pour le coup comme citoyen, comme sociologue je montre juste que c'est faux ou aberrant, comme citoyen je dirais c'est en plus exaspérant, bon, qu'on nous traite ainsi je dirais comme citoyen quoi.
On part à Nice.
Alors après, il y a un autre versant sur la délinquance plus ordinaire, de voie publique. J'ai quelques secondes pour
en parler.
Bien
sûr, allez-y. Oui, bien sûr.
Alors là-dessus, j'étudie donc très en détail les deux séquences possibles, les deux dispositifs possibles, soit les villes qui n'ont que des caméras qui enregistrent au cas où ce serait utile après.
Ouais.
Et puis deuxième situation, c'est les villes qui en plus de cela emploient des gens pour regarder des écrans en direct à longueur de journée, voire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Donc là, il y a deux choses différentes. Dans le premier cas, je montre que quelques caméras bien placées à des endroits policièrement stratégiques véritablement, eh bien ça peut apporter une petite aide dans les enquêtes qu'ils feront par la suite, mais que le pourcentage des enquêtes sur une année entière dans lesquelles les policiers ou les gendarmes selon la zone ont été aidés par des images de vidéo, ce pourcentage est en fait tout petit, je le chiffre entre 0 et 3% du total des enquêtes qu'ils font sur une ville sur une année entière. Donc ça existe, mais c'est tout petit. Donc la question que je pose là, c'est plutôt celle du rapport coût-avantage, vous voyez. Est-ce que l'argent qu'on met, et dont on parle jamais, est-ce que ce véritablement c'est bien employé, ça vaut le coup? Et puis alors sur la question des gens qui observent en direct, là ce que je montre, c'est, et qu'on évoquait tout au début de votre émission hein, dans la petite accroche, ce que je montre là, c'est qu'en fait, dans les petites et moyennes villes, lorsque ça existe, eh bien le principale chose qu'on constate quand on s'enferme avec eux hein, une semaine entière, etc., on constate qu'en fait les gens s'ennuient parce qu'il ne se passe pas des choses tous les quarts d'heure à tous les coins de rue, ça c'est un fantasme. Hein. Dans la réalité, c'est assez rare. Bon. Et que donc en fait ils s'ennuient et que dans les grandes villes, oui, ils font quelques affaires en direct, mais que là aussi absolument pas de quoi justifier l'emploi de tous les personnels. Et que donc en fait on assiste à un détournement du système pour employer les gens et justifier le système et pour faire autre chose. Et dans les grandes villes, le grand détournement actuel, c'est ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les caméras pour verbaliser les infractions routières qui ne sont plus celles du coup d'une petite minorité de méchants délinquants, mais qui sont plus ou moins celles de chacun d'entre nous. De tous.
Alors
les autres
justement,
en tout cas.
Laurent Mucchielli, lorsque le citoyen peut devenir lui aussi surveillant, on va écouter un reportage qui date d'il y a quelques semaines à peine, c'était en janvier, à Nice, diffusé sur France 3.
Un cycliste renversé à Nice.
Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît.
L'infraction est filmée en direct avec un smartphone et retransmise immédiatement sur les écrans de la police municipale. La municipalité teste une application israélienne appelée Reporti, démonstration dans les rues de la ville.
Je suis témoin d'un fait, je veux le signaler. C'est transmis immédiatement. On va avoir un appel qui va arriver, sauf qu'on va bénéficier immédiatement de l'image de ce qui est vu par la personne qui nous appelle et surtout la géolocalisation de l'endroit où il se trouve.
Le dispositif est testé par 2000 Niçois, parmi lesquels des agents municipaux, des comités de quartier et aussi des membres du réseau Voisins Vigilants. L'utilisation de Reporti pose des questions éthiques. Ces développeurs assurent néanmoins que les données collectées resteront confidentielles.
Alors Laurent Mucchielli, les tests sont en cours. Je ne sais pas si c'est terminé d'ailleurs à Nice autour de cette expérience. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'effectivement, tout le monde peut devenir maintenant un surveillant potentiel.
Oui, la première chose qu'il faut dire à nos auditeurs, et le reportage disait ça pose peut-être des questions et des problèmes, la réponse est oui, ça a été dit hier par la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui vient très clairement de dire à la ville qu'il fallait arrêter ça tout de suite. Donc ça, il faut absolument le savoir, c'est tout à fait essentiel. Ensuite, l'autre chose qui est un peu étonnante dans tout ça, c'est que, ça fait partie de la communication, encore une fois, de la ville de Nice, dès qu'on a quelque chose d'un peu high-tech qui touche à la surveillance, on est certain qu'à Nice, on va le voir tester. C'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout se passe comme si, enfin, c'est présenté comme si c'était tout à fait nouveau et que ça allait combler un vide, etc. Il faut quand même rappeler quelques évidences. La première, c'est que si chacun d'entre nous est témoin d'un quelconque délit ou d'un accident ou etc. dans la rue, il prend son téléphone et il fait le 17 police secours. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin du centre de vidéosurveillance de la ville pour. C'est un petit peu le souci, mais c'est tout à fait typique, je dirais encore une fois, de cette façon qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus, qu'ont un certain nombre d'élus, à la fois de faire de la politique avec la sécurité, on l'a déjà dit, mais surtout de le faire en utilisant au maximum tous les gadgets high-tech que les industries de surveillance et de communication produisent massivement de nos jours.
Et en conclusion, vous dites bien que ces systèmes de vidéosurveillance, c'est un écran de fumée, un véritable échec, et on en reparlera. Vous reviendrez, on en consacrera un dossier entier à ce thème autour de votre enquête qui paraît chez Armand Collin. Laurent Mucchielli, merci beaucoup, et merci aux équipes de France Bleu Provence qui nous ont permis ce duplex.
La tête au carré, le club.
Allez, vas-y.
X. Moins X ?
Oui, c'est ça. Non, parce que ce qui est important, c'est pas le résultat. Le résultat, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. T'as compris ? Encore 5 minutes d'attention. Et puis après, je vous raconterai l'histoire du zéro.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Il va faire mieux que nous raconter l'histoire du zéro. Etienne Gis, il va nous raconter la vie des génies des mathématiques à l'appui donc de cette collection qui paraît au Monde et avec l'Obs. Ça a commencé d'ailleurs mercredi. Vous êtes mathématicien, Etienne Gis, directeur de recherche au CNRS, unité de mathématiques pure et appliquée de l'École normale supérieure de Lyon. Et donc vous êtes le parrain de cette collection. Et puis David Larousserie, journaliste scientifique au Monde. C'est quoi d'ailleurs, David, l'idée de la collection? Parce qu'il y a quoi, une cinquantaine de volumes là qui vont sortir ça sera un par semaine.
En effet, voilà. Voilà, chaque semaine, la vie et l'œuvre d'un grand mathématicien. C'est une manière de vulgariser les maths par le double biais de la personnalité. Et en mathématiques, c'est l'une des sciences les plus incarnées. Ouais. Le terme de génie est souvent quand même le plus associé. Et l'autre point d'entrée, c'est évidemment l'œuvre de ces mathématiciens. Et on a une autre particularité des mathématiques, c'est que les œuvres des mathématiciens sont souvent, sinon éternelles, du moins de très longue durée.
Oui.
Et donc, revisiter cette histoire, c'est aussi parfois, c'est toujours voir des choses, si ce n'est utile aujourd'hui, mais en tout cas toujours juste. et on est dans des procédés donc très intéressants de ce mélange entre l'incarnation des idées et puis les théories, hypothèses, etc., qui ont les équations qui perdurent encore.
Étienne Gis, découvrir les esprits d'exception et les théories qui ont révolutionné le monde. Voilà le slogan d'appel pour cette collection qui commence donc avec Gauss, Monsieur Gauss, que vous allez nous présenter. Parce que là, franchement, je vous ai trouvé très, très gonflé. Hein. C'est de proposer d'emblée un mathématicien dont le nom n'est pas forcément le plus connu. Parce que quand même, dans votre liste, vous avez Newton, vous avez Alan Turing.
Il est quand même connu pour une chose dont il n'est pas vraiment l'auteur, c'est la courbe de Gauss.
Oui, hein, mais enfin bon, je ne pourrais pas vous l'expliquer par exemple.
Si vous demandez à un mathématicien de quel est celui qui, selon lui, est l'un des plus importants de l'histoire, probablement qu'il vous parlera de Gauss.
Ah bon ?
Gauss est quelqu'un de vraiment exceptionnel, aussi bien dans la forme que dans le fond. Franchement, bien sûr c'est difficile, mais lire un article de Gauss est une véritable merveille.
C'est vrai.
Il écrivait de manière exceptionnellement concise, précise. Souvent, c'est difficile. Il avait une phrase qui était assez intéressante. Il disait, vous savez, quand les maçons ont fini de construire une maison, ils retirent les échafaudages. Eh bien, moi, je fais pareil. Du coup, on visite un palais merveilleux et on ne sait pas trop comment il a été construit. Mais nous avons tous une immense admiration pour Gauss. Et surtout, par le fait que lorsqu'il est mort et lorsqu'on a regardé dans ses papiers...
Donc en 1855...
On a trouvé une quantité incroyable de choses vraiment merveilleuses et qu'il n'avait pas publiées pour des tas de raisons. L'une d'entre elles était qu'il considérait que ce n'était pas encore complètement finalisé.
Ouais.
Il ne publiait que des choses dont il était complètement fier, des choses éternelles, comme disait.
C'était un esthète aussi des mathématiques.
Ah oui, alors, oui, tout à fait. Et ce que je voudrais ajouter encore sur Gauss, ce qui me semble très important, c'est qu'il avait une conception de l'unité de la science. Pour lui, il n'y avait pas de science pure ou de science appliquée ou de mathématiques ou de physique. Tout était dans sa tête relié en une seule et même chose.
Donc il embrassait les mathématiques dans leur ensemble.
Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est, je crois, du côté de 1818, il avait été amené à tracer la carte du royaume de Hanovre. Et alors, c'est un travail exténuant. Il faut recruter des assistants, il faut trouver de l'argent, il faut monter en haut des églises pour mesurer des angles et tout ça de choses. Eh bien, en simultané, il avait un travail de réflexion profonde sur la géométrie qui l'a mené à une œuvre majeure qui s'appelle le Traité général sur les surfaces. Il a inventé la courbure qui sera le concept crucial pour Riemann, qui sera lui-même le concept crucial pour Einstein.
Ah oui, donc c'est-à-dire donc que c'est voilà, en plus il a essaimé...
D'inspirateur
aussi, hein.
au suivant. Ouais. Les historiens disent que son petit défaut de publier des choses trop finalisées a impliqué que les mathématiques ont perdu 50 ans. Puisque pendant 50 ans, les papiers sont restés dans son bureau et que personne ne pouvait les voir.
Ouais. Alors, Étienne Gis, on parlait justement des femmes en sciences tout à l'heure. Quelles sont les deux mathématiciennes alors qui sont présentes dans la collection, en l'occurrence ?
Émile Noether, une algébriste exceptionnelle, et Sophie Germain, qui faisait de la théorie des nombres.
Ah oui.
Et qui avait été obligée
alors, elle, on la connaît un peu mieux.
On la connaît un peu parce que l'université porte son nom ici, ou en tout cas un département de mathématiques, mais aussi parce qu'elle avait dû trafiquer et se présenter sous un nom d'homme. Près de Gauss.
Ah oui, tiens.
Et que d'ailleurs, Gauss avait reçu avec beaucoup d'affection.
Alexandra Palt, vous la connaissiez de nom, Sophie Germain ?
Oui.
Ouais.
Mais c'est sûr que ce qu'on sait aussi, que souvent de grands hommes avaient, quelquefois arrivés, avaient à leur côté de grandes mathématiciennes
qui le
soutenaient, qui avaient, n'est-ce pas ?
C'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais ça serait passionnant d'avoir une conversation sur cette question.
Alors, Étienne Gis, on peut citer d'autres noms justement de cette collection. Alors...
Eh bien, les premiers ouvrages parlent de Gauss, donc de Euler et Laplace.
Oui. Ah, Laplace, tiens.
Alors, Laplace.
L'Institut Pierre-Simon Laplace, on en parle souvent. Avec les climatologues.
Laplace, c'est sans aucun doute le symbole de la science de Napoléon.
Oui.
Hein, c'est
pas le plus attachant des mathématiciens.
Il n'est pas très attachant, mais d'un point de vue production scientifique, il est vraiment exceptionnel. Les Français l'appellent le Newton français.
Ah oui, quand même.
Bon. Pas n'importe qui, ça s'appelle comme ça. Il y a des contributions à la mécanique céleste. et aux probabilités. Vous savez, en écoutant cette collègue médecin qui sauve tant d'enfants, je me dis toujours, mais comment, qu'est-ce que je fais, moi, là, à parler de mathématiques et je ne sers à rien. Mais je dois avoir conscience du fait que des gens comme Laplace, par exemple, ont développé la théorie des probabilités, les statistiques, et sans cette approche probabiliste du monde, on aurait bien du mal à faire de la biologie aujourd'hui.
Donc un institut porte son nom, évidemment, Pierre-Simon Laplace. Et puis alors, Newton et Alan Turing quand même, hein. Il faut citer les deux grosses stars du casting.
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les plus grosses stars, après ce sont des questions de goût. Hein,
Mais pour peut-être pour le néophyte en tout cas. Hein.
Et Euler.
Euler aussi.
Euler est le numéro 2 ou 3 de cette collection.
Ouais.
Euler est un personnage qui est un peu l'opposé de Gauss. Il publiait sans arrêt. Pendant certaines périodes de sa vie, il publiait un article par semaine sur des sujets les plus variés. Et pour vous donner un exemple de livre que j'aime beaucoup de Euler, Euler a été embauché à un moment de sa vie pour faire l'éducation scientifique d'une jeune fille, une jeune princesse, qui était reliée au duc local. Et il a écrit 200 lettres à cette jeune fille qui sont merveilleuses de sensibilité, de pédagogie. Il lui parle de mathématiques, bien sûr, mais de physique, de philosophie, de musique. Et c'est un régal qui montre toute
la
diversité.
Ses lettres, vous pliez l'une de ses lettres dans la collection.
Il y en a quelques-unes
qui sont dans la collection.
Mais c'est un régal d'entendre un grand mathématicien parler à une jeune princesse.
Ouais. C'est l'occasion de faire découvrir les mathématiques aussi à des publics un peu réfractaires, Étienne.
Alors moi, la raison qui fait que je suis très content d'être parrain de cette collection, c'est précisément que, avec un peu de chance, le public général va changer de point de vue sur les maths.
Ouais.
Et puis, je l'espère aussi, beaucoup de jeunes y trouveront une vocation nouvelle.
David Larousserie, donc le premier numéro est sorti mercredi.
Voilà, oui, c'est effectivement de la culture générale aussi que ces livres racontent.
Ouais. Comment vous vulgarisez-vous les mathématiques en tant que journaliste scientifique? Comment vous parvenez à parler des maths? Parce que ça, c'est un des gros problèmes pour nous. Hein.
Oui, donc, on peut dire honnêtement que c'est un cauchemar pour les journalistes.
Merci.
Mais une fois qu'on a passé ce cauchemar-là, c'est un vrai paradis. Parce que en général, les mathématiciens sont tout à fait contents de faire partager leur savoir. On découvre des choses et donc c'est dur d'y rentrer, mais ensuite c'est un grand plaisir.
Et l'histoire des sciences, l'histoire des grands personnages des mathématiques,
c'est un moyen pour rentrer dans cette histoire.
On est d'accord. Ouais. Premier numéro donc de cette série consacrée à Gauss, il y en aura beaucoup. Il y a 50 volumes qui vont sortir chaque semaine avec Le Monde et L'Obs, les génies des mathématiques. Merci beaucoup à tous et merci à Ina Kang qui a assuré la traduction tout à l'heure de notre entretien. C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Alexandre Chenet et Maxime Ingrand qui étaient à la technique. Et on se retrouve lundi pour parler du corps redressé avec Georges Vigarello.